Vous écoutez
RMC. RMC, l'After Live.
Karine Gagne.
Bonsoir à tous, bienvenue sur RMC. Vous entendez cette musique, c'est la musique de la Ligue 2. Et oui, la saison 2026-2027 commence ce soir. On va absolument se régaler avec une Ligue 2 extrêmement compétitive. 9 matchs au programme ce soir. On sera partout pour m'accompagner pour cette reprise de la Ligue 2 sous le soleil. On est avec monsieur David Glusman. Tout va bien, David?
Ah, mais écoute, ça ne peut pas aller mieux.
Enfin, on adore la Ligue 2.
Enfin, le vrai foot qui reprend. Enfin.
On l'aime, cette Ligue 2.
Oh, mais on l'adore.
Il aime la Ligue 2. Il espère la jouer bientôt avec son club. C'est Kevin Diaz. Ça va, Kevin?
Salut à tous.
La Ligue 2, t'adores?
Ouais, la Ligue 2, c'est intéressant à suivre. C'est pas la Nationale 1, mais c'est intéressant à suivre.
La Ligue 2 au programme. On rappelle qu'il y a un plateau extrêmement relevé avec des relégués de Ligue 1, Nantes et Metz, avec des promus de National, Dijon et Sochaux. On sera sur tous les terrains. On va vous faire vivre, évidemment, donc cette reprise du championnat. On parlera également ce soir de Mehdi Benatia qui règle ses comptes avec notamment ses anciens joueurs de l'Olympique de Marseille, mais aussi son ancien président Pablo Longoria. Le titre de l'interview donnée à France Football, c'est « Je me sens trahi ». Il y a beaucoup de choses à dire sur les propos de Mehdi Benatia. Et puis on parlera également des matchs amicaux, notamment le PSG qui a fait match nul, un but partout face à Manchester United. On rappelle que mercredi, il y aura la finale de la Super Coupe entre le PSG et Aston Villa. L'After Live, c'est parti! On l'a dit, donc, c'est la Ligue 2 qui reprend ses droits ce soir et on est évidemment très heureux. C'est le lancement de la saison avec 9 matchs au programme. On a évidemment un plateau très relevé. On a 5 clubs qui ont déjà été sacrés champions de France, messieurs. On a Saint-Etienne, on a Nantes, on a Reims, on a Sochaux et on a Montpellier. On a évidemment des clubs qui ont performé l'an dernier, qui ont aussi déçu. On va tout vous dire sur ces magnifiques affiches. Les affiches les plus importantes avec notamment des anciens historiques de notre championnat et de l'élite, Sochaux-Saint-Etienne. On sera évidemment à Bonal, Sochaux qui retrouve la Ligue 2 et ça nous fait plaisir. Nantes Red Star, le Nantes de Michel Derzakarian, lui qui espère refaire monter les Canaries. Ça serait une troisième remontée. Il l'a déjà fait par 2 fois, l'ancien joueur de Nantes et l'ancien entraîneur des Canaries. Metz-Guingamp également, un match ô combien important pour les Messins qui ont été relégués après une saison cataclysmique. Clermont-Reims, la saison du renouveau peut-être pour les Clermontois qui ont tout changé lors de cet été. Boulogne-Nancy, Dunkerque-Grenoble, Montpellier-Dijon, Pau-Annecy et Rodez-Laval. Voilà le programme. Messieurs, quel est le match qui vous excite le plus ce soir?
Montpellier-Dijon.
Ah ouais, Montpellier-Dijon. Montpellier-Dijon. Deux anciens membres de la Ligue 1.
Deux anciens membres de la Ligue 1. Montpellier-Dijon, parce que j'aime beaucoup le projet dijonnais, qui est notamment basé sur des jeunes. C'est une équipe qui a un momentum, un club qui est dans une spirale positive. Et Montpellier, moi, j'ai adoré la reprise en main du clan Nicolin cet été. Moi, j'ai même comparé le fait que les Nicolin restent après le vrai faux épisode de la vente, à une vraie opération d'acquisition de club. Pour moi, c'est le renouveau du Montpellier Héros. J'aime bien le recrutement qui a été fait. J'ai confiance en la jeunesse qui arrive. Donc, pour moi, Montpellier, ce sera mes chouchous de la saison.
Chouchou de la saison, donc, avec Montpellier, on rappelle, sacré champion de France en 2012, et Dijon qui est promu de National en Ligue 2. Kevin, quel est le match qui t'intéresse le plus ce soir?
Bah écoute, Montpellier-Dijon, comme vient de le dire David Glusman, ce sera absolument pas le match que je vais suivre en premier. Et je comprends pas son histoire de chouchou, Montpellier, Nicolin. Pour moi, le foot à Montpellier, non, c'est pas là où je vais le suivre. Par contre, moi, il y a un match, hein, c'est le FC Nantes de Damien Michel Derzakarian contre le Red Star de Damien Perrinel. Je pense que c'est vraiment le match que j'ai envie de
suivre. C'est un match à huis clos. Match à huis clos,
pas grave, parce qu'effectivement, ce match, il est très important.
Et puis, il y a un autre match, c'est quand même entre deux historiques de la Ligue 1, en tout cas de ma Ligue 1.
Sochaux-Saint-Etienne,
avec le retour de Sochaux en Ligue 2 après quelques temps difficiles dans les étages inférieurs, enfin à l'étage inférieur, et Saint-Etienne qui va peut-être enfin réussir le projet canadien.
On va en tout cas tout vous dire. Effectivement, là, on a des images notamment à Bonal qui sera à guichet fermé. Mais on va commencer par le match qui te plaît le plus, Kevin, parce qu'effectivement, il y a beaucoup d'histoires sur ce Nantes Red Star. On va prendre tout de suite la direction de la Beaujoire, même si c'est à huis clos ce soir, parce que effectivement, les Nantais ont été sanctionnés après les incidents face à Toulouse. Et bien Nantes retrouve la Ligue 2 après 13 saisons passées en Ligue 1, mais ils espèrent tout de suite faire la remontée. En tout cas, les objectifs sont déjà annoncé. Nantes Red Star, c'est à vivre avec David Philippot. Bonsoir David.
Bonsoir tout le monde. Ça fait un peu bizarre, hein. J'ai l'impression d'être tout seul dans le stade.
Mais non, on est là avec toi.
Et en plus, il n'y a pas beaucoup de confrères. Non, non, vous êtes avec moi, effectivement.
Il n'y a pas beaucoup de confrères ?
On est en plein été, hein. On est quoi, une grosse vingtaine par rapport à la Ligue 1, ça change un petit peu.
Effectivement, il va falloir revenir donc à l'étage inférieur à ce championnat qui a déjà souri aux Nantais, parce qu'on le rappelle, hein, Michel Desarcarian, c'est l'homme qui est de retour sur les bancs des Canaries, et c'est surtout l'homme qui sait faire remonter le FC Nantes. En 2008, en 2013, il était sur le banc, il avait fait remonter le club, et l'objectif, il est très clair. Il l'a dit, hein, Michel Desarcarian, David, je suis revenu pour remonter, c'est l'objectif. Donc cet été 2027, il faut que les Nantais soient en Ligue 1. C'est clair, net et précis.
Oui, bah de toute façon la famille Kita, hein, Franck et Valdimir Kita, ils ont décidé de recruter Michel Desarcarian parce qu'il connaît la recette. Tu l'as dit Karine, hein, 2008, il avait fait remonter tout de suite le FC Nantes, hein, au bout d'un an. 2013, il était arrivé pour faire remonter, et la première année, ils étaient remontés, alors que Nantes était déjà croupissait en Ligue 2 depuis trois saisons. Hein. Je me souviens de ces saisons, elles étaient très très longues. Hein. Il y avait plus grand monde dans le stade. Donc c'est pour cette raison que les Kita, eh bien, ont décidé de rappeler Michel Desarcarian, même si ça s'était très très mal fini. Hein. Faut pas l'oublier, entre le président Kita et Michel Desarcarian. Mais on a décidé de mettre les problèmes, comme on dit, sous le tapis et de retravailler ensemble. Et puis il a annoncé en conférence de presse. Hein. Bon, on a entendu évidemment le terme de combat. Il va falloir aller au combat parce que cette Ligue 2, il le sait très bien, Michel Desarcarian, elle va être très très compliquée, elle est très relevée. Et puis bon, il a toujours des bonnes phrases, hein, Michel Desarcarian. Si on a le cigare qui gonfle, on ne gagne pas un match. Donc il veut beaucoup d'humilité, et puis surtout des joueurs très très combatifs pour tout de suite remonter en Ligue 1.
Une Ligue 2 qui effectivement paraît extrêmement relevée. On rappelle que sur les 18 clubs engagés cette saison, il y en a déjà 14 qui ont joué dans l'élite. Donc ça s'annonce compliqué pour les Nantais, mais ils savent faire. On rappelle que Nantes a vécu une saison cataclysmique l'an dernier. Lors du changement d'entraîneur, avec le retour de Michel Desarcarian, les Kita ont reconnu quelques erreurs. Là, ils veulent tout oublier. Il y a notamment des joueurs également qui sont partis, des joueurs importants. On rappelle Ablin qui est parti à Monaco, Anthony Lopez qui a été libéré et qui est parti à Angers. Donc, on doit écrire une nouvelle histoire, David.
Oui, mais c'est aussi pour ça que l'effectif il y a eu pas mal d'arrivées, hein. L'effectif est un petit peu régénéré. Tu as parlé des départs de Mathis Ablin pour 30 millions, hein, du côté de l'AS Monaco. Il y a Alban Lafont qui est revenu, qui est reparti tout de suite, lui, du côté de la Turquie. Et surtout des arrivées pour le moment, 6 recrues, Dupé. Alors, il est bien connu, hein, parce qu'il a été formé au FC Nantes. Ouais, retour à la maison pour Maxime Dupé. Younoussa, c'est un joueur de Rodez, mais il est suspendu pour ce match. Et autrement, il y a Cafaro. On a choisi du côté de Nantes des joueurs qui connaissent parfaitement la Ligue 2. Cafaro, Corredor, ancien joueur de Rodez, Cafaro, ancien joueur de notamment du PFC. Et puis plus récemment, il y a eu Perrin également, hein, qui est titulaire ce soir dans l'axe central. C'est plus un joueur de Ligue 1, passé notamment par l'Olympique de Marseille. Et vendredi, c'est Seydou Sow, qui avait déjà fait un passage du côté de Nantes il y a 2 ans, qui revient donc pour jouer dans l'axe de la défense, prêté par le Racing Club de Strasbourg. Donc on a vraiment cherché à renouveler totalement cet effectif. Et je peux vous dire que c'est pas terminé. Il y aura sans doute un latéral gauche. En tout cas, c'est le souhait de Michel Desarcarian, latéral gauche, et sans doute un voire deux attaquants, et pourquoi pas un milieu de terrain. On pense notamment à Marchetti du PFC, qui est toujours suivi de très très près par la direction et le staff du FC Nantes.
La reprise de la Ligue 2, c'est ce soir à vivre sur RMC, coup d'envoi à 20h45, le relégué Nantes face au Red Star qui était quatrième du dernier championnat. Et voilà, cette affiche nous offre également des retrouvailles, David, parce qu'il y a d'un côté Michel Desarcarian qui va découvrir en face de lui son ancien joueur, son ancien capitaine Damien Perinel. Il l'avait coaché pendant 2 saisons au Clermont Foot, et Damien Perinel là qui est lancé dans le grand bain en tant que numéro 1.
Effectivement, ils sont connus de 2010 à 2012, hein, Damien Perinel et Michel Derzakarian du côté de Clermont. Alors Perinel, il a décidé en fin de saison de voler de ses propres ailes. Il était depuis 6 années du côté de l'AS Monaco. Tout d'abord entraîneur du groupe élite, puis après adjoint de l'AS Monaco. Il a été adjoint de Clément, de Philippe Clément, de Nico Kovac, d'Adi Hütter. Et il a décidé, c'est même là-bas à Monaco, hein, qu'il a passé son BEPF, donc le diplôme d'entraîneur professionnel. Et il a décidé de remplacer, enfin en tout cas de partir de Monaco et de se lancer en tant que numéro 1 parce qu'il avait des ambitions. Donc c'est vraiment une grande première pour Damien Perinel ce soir du côté de la Beaujoire. Il a remplacé Grégory Poirier qui avait fait du bon boulot au Red Star. Faut pas oublier que le Red Star était quatrième la saison dernière, a fait les barrages éliminés par Rodez. Donc méfiance quand même parce qu'il n'y a pas eu beaucoup de changements, hein. C'est un effectif assez stable, hein, du côté du Red Star. Il y a eu une arrivée, on va peut-être en parler après quand même, hein, évidemment d'Elias Zidane, le quatrième fils de Zinedine Zidane, mais c'est vrai que c'est un effectif qui n'a pas trop bougé du côté du Red Star.
On va en parler effectivement du jeune défenseur de 20 ans, fils de l'idole et du nouveau sélectionneur des Bleus. Messieurs, d'abord un mot sur cette opposition. Michel Derzakarian qui retrouve un de ses anciens joueurs, Damien Perinel qui se lance dans le grand bain. On sait qu'il avait envie depuis longtemps d'être numéro 1. Il a décidé de quitter Monaco pour le Red Star, qui est un club mythique du championnat, qui est un club qui est très exposé. C'est un sacré challenge.
C'est sûr que c'est un beau challenge pour Damien Perinel qui a fait ses armes du côté de l'AS Monaco en passant par cette équipe réserve. Alors il n'y a pas vraiment de championnat, mais c'était un championnat de réserve où il faisait pas mal de matchs amicaux dans l'Europe entière, je crois, avec des très grands clubs où il y a quand même eu des joueurs qui sont passés, hein, comme Cliouche notamment, mais d'autres qui l'a aidé à faire grandir. Et donc ensuite en tant qu'adjoint, il a quand même rencontré beaucoup d'entraîneurs à l'AS Monaco puisqu'il y a eu beaucoup de roulements. Du coup, beaucoup de méthodologie, sûrement pas mal de QI football qui a pu être emmagasiné, pas mal de méthodes d'entraînement aussi. Et donc, ça doit être très enrichissant pour lui. Aujourd'hui, il est à la tête d'un très beau club en région parisienne, avec un stade qui est en fin de construction, avec un beau centre d'entraînement, en tout cas pour la région parisienne. Et donc, je pense que c'est un projet vraiment très, très intéressant pour lui. Et un choix de coach aussi intéressant, puisqu'un jeune coach formateur qui il y a quand même toutes les méthodes modernes avec donc tous les entraîneurs qu'il a croisés, notamment à l'AS Monaco. On va suivre ça de très près.
Moi, j'aime bien il a 42 ans et ouais. Il prend la suite, David l'a dit, de Poirier qui avait fait du très bon travail. Donc il est vraiment attendu là, Damien Perinel.
Il est vraiment attendu, mais après on sait aussi que la situation financière en fait du Red Star est pas compliquée, mais il y a un actionnaire qui est quand même en restructuration. On sait que ça faisait partie de la galaxie 777 Partners qui a explosé dû à la défaillance de l'actionnaire. Donc Grégory Poirier a fait surperformer cet effectif, l'effectif qui est resté très stable. C'est vrai que peut-être le joueur majeur qui est parti, c'est Hossein Ben Ali, et c'est peut-être dans le secteur offensif que le Red Star va devoir recruter et se remplumer. Mais moi, le Red Star, j'ai vraiment aussi envie de mettre en avant l'audace et les risques pris dans les choix sur le banc. Il y a eu Habib Bey, il y a eu Greg Poirier qui avait fait de l'excellent travail à Martigues, et là maintenant Damien Perinel qui est un entraîneur prometteur en vue. Donc moi j'ai vraiment hâte de voir ce que Damien Perinel en fait va pouvoir mettre en place. Et Nantes ça va être aussi super intéressant avec un recrutement estampillé Ligue 2, qui est un corridor que moi j'avais adoré du côté de Rodez qui met énormément d'attaquants en valeur dans son système à deux attaquants, avec Perrin qui a connu également la division, avec Cafaro qui peut battre ou égaler en tout cas le record de montée. Après, c'est vrai qu'il manque quelqu'un à gauche. Ils ont perdu Jean-Kévin Duverne, qui n'était pas vraiment un piston gauche, mais qui vient de perdre partir. Ils n'ont pas réussi à faire Zouaoui du Havre. Donc, encore un effectif mouvant.
Nantes Red Star, c'est l'un des matchs évidemment à suivre ce soir. C'est l'une des attractions de cette Ligue 2. On souhaite le meilleur à Damien Perinel. C'est un copain de l'After. David, dis-nous tout concernant les compositions d'équipe. Et puis tu l'as évoqué. Est-ce que Elias Zidane, jeune défenseur de 20 ans, est titulaire ou pas dans les rangs du Red Star?
Alors, on va démarrer par ça. Eh bien oui, il est titulaire, Elias Zidane. Donc dans l'axe de la défense. D'ailleurs, ça sera pas mis Zidane derrière son maillot. Ça sera mis Elias. C'est ce qu'on a pu lire dans la presse nationale. matinale ce matin. Les compos d'équipe, du coup, le Red Star, eh bien, ça sera un 4-2-3-1 sans doute. Magnin côté gauche, Huard côté Magnin côté droit, Huard côté gauche. Zidane, donc on le disait, Durivo dans l'axe, Poussin dans la cage, Hachem, Alifa et Kawi au milieu du terrain, Cissé côté droit, Durand côté gauche et Cabral dans l'axe. Du côté de Nantes, il y a une énorme surprise. Il y a un vrai souci hein, sur les côtés. David en a parlé. On va retrouver eh bien Dupé, hein, Maxime Dupé dans la cage. Une défense à 3 ou à 5, mais en tout cas à 3 avec Perrin, Tati et je cherchais le. C'est Gilbert, c'est ça. Et donc sur le côté gauche, on va retrouver Tabibou et surtout la grosse surprise sur le côté droit, Hugo Lamy, formé au Paris Saint-Germain, jeune joueur franco-suisse de 22 ans, qui est arrivé il y a un an. Il c'était un peu l'homme fort hein, de l'équipe réserve du FC Nantes la saison dernière. Et bien, il est titulaire ce soir pour la première fois donc dans un championnat pro français. Ensuite, on trouvera au milieu du terrain Sissoko, Duff et Cafaro. Cafaro qui sera derrière un duo d'attaquants composé de Corredor et Kanagou.
On l'a vu hein, cet été pendant les matchs de préparation, Michel Derzakarian est parti avec un système à 3 ou à 5. En tout cas, et ce soir, c'est ce qu'on retrouve pour ce premier match de championnat. Frédéric Gilbert, qui est très attendu, qui est un des bons clients du football. On aime sa franchise, c'est toujours un plaisir de l'avoir en interview. Il a parlé justement des objectifs du FC Nantes. On écoute le défenseur.
C'est quelqu'un qui a beaucoup d'expérience. Voilà, il nous apporte beaucoup de calme. C'est quelqu'un de très confiant et il sait où il veut aller. Ses adjoints aussi. Donc voilà, on travaille avec confiance et sérénité. Maintenant, tout ça doit se transcrire sur nos matchs de championnat. Parler c'est bien, agir c'est mieux, comme on dit.
Frédéric Gilbert, invité de l'Intégrale Sport sur RMC il y a quelques jours, qui parlait de Michel Derzakarian. C'est bien que Derzak direct ait dit voilà, moi je suis revenu pour une seule chose, c'est la montée, l'objectif il est là, voilà, il n'y a pas de on verra à mi-saison, on fera un bilan, etc. C'est clair, net, précis.
Écoute, je sais pas si on peut dire qu'il y a quelque chose qui est bien au FC Nantes aujourd'hui. Après, l'ambition, c'est jamais en tout cas déplacée. Ils ont de l'ambition, c'est un gros club. Alors ce soir, ils n'auront pas leur public, mais ça reste une des plus belles affluences de France depuis plus de 10 ans maintenant. Donc ça reste un très très grand club français. Donc qu'il ait l'ambition de remonter, c'est normal. Après l'affiché, moi je connais pas leurs moyens, j'ai pas suivi leur préparation de très près. J'ai vu que je crois qu'ils sont inclinés contre Le Mans notamment, mais. Mais sinon, pour le reste, ça reste un très grand club, donc c'est normal de vouloir remonter directement. Après, il faut qu'il y ait les ambitions qui suivent et les moyens financiers.
Après, ils ont pris des joueurs en fait qui sont quand même du top top de Ligue 2 et Derzakarian, je pense qu'il a passé l'âge de tourner autour du pot. Et moi, ce que j'aime dans son retour, c'est que dans tout ce tumulte au FC Nantes, c'est un peu une figure de stabilité. C'est un visage connu, un visage reconnu. C'est quelqu'un qui a déjà eu des résultats au FC Nantes. Donc, dans toute ce chaos nantais. Avoir une figure un peu tutélaire comme ça, c'est toujours positif.
David, un mot justement sur l'enveloppe des transferts qui est proposée par l'Equita.
Oui, alors justement, on parlait d'argent. Le budget du FC Nantes est passé de 50 à 30 millions. 30 millions, donc ça doit être le deuxième budget de Ligue 2. Je crois qu'il y a Metz qui est un petit peu au-dessus, il me semble. Saint-Etienne, on doit être aux alentours de 30 également. Alors, pour l'instant, l'Equita ont investi Corredor, 2 millions d'euros. Après, il n'y a pas eu de gros investissements pour le moment. Il y a eu beaucoup de joueurs qui sont arrivés libres, des petites indemnités de transfert, mais pas de gros transferts, en tout cas cet été, réalisés par l'Equita.
Merci beaucoup David, on revient te voir dans quelques minutes. On rappelle donc que Nantes, relégué de Ligue 1 en Ligue 2 face au Red Star 4e du dernier championnat, c'est l'une des affiches de ce soir. Coup d'envoi à 20h45. Vous êtes sur RMC, on est en direct, on continue le tour des pelouses de Ligue 2. À tout de suite.
RMC, l'After Live.
Vous êtes sur RMC, on est ensemble en direct jusqu'à minuit avec Kevin Diaz, avec David Guzman, avec vous, passionnés de Ligue 2. Oui, c'est la reprise du championnat de Ligue 2 avec 9 affiches ce soir. Nous étions à Nantes il y a quelques minutes pour Nantes Red Star à la Beaujoire. On va continuer dans des très belles affiches qui nous sont proposées avec une affiche mythique. Ça sent bon, le football d'avant. Sochaux, Saint-Etienne. On prend la direction de Bonal et on va retrouver avec grand plaisir Sébastien Ruffet. Salut Sébastien.
Salut, hein, Sébastien Ruffet à l'ancienne un petit peu ce soir. Voilà, pour être raccord avec le paysage. Voilà, c'est des clubs effectivement qui me rappellent un peu plus ma jeunesse, effectivement. Quoi. Ouais.
Et oui, c'est une magnifique affiche entre deux clubs historiques, deux clubs populaires. On rappelle que Sochaux a réalisé une montée après avoir passé trois saisons en national, après avoir souffert, et bien ils sont de retour sur de bons rails. Du côté de Saint-Etienne, il y a eu la déception. Hein. Il y a Philippe Montagnier qui est arrivé en février pour faire remonter le club en l'élite. Ils n'ont pas réussi l'objectif et donc ils ont changé également d'entraîneur. On va d'abord parler évidemment de Sochaux parce que Sochaux, c'est un retour en Ligue 2 avec ce soir un stade qui sera à guichet fermé, des Lyonceaux qui vont pouvoir compter sur des supporters en folie.
Ah oui, complètement, oui, oui, c'était sûr et certain que ce sera guichet fermé, quel que soit l'adversaire d'ailleurs, hein, puisque évidemment ce public de Sochaux est très va être très fervent. Voilà, on rappellera quand même que c'est un peu grâce à ce public, hein, que ce club est toujours là, hein, puisqu'ils avaient réussi à mobiliser 500 000 euros auprès des supporters il y a 3 ans de cela pour relancer un peu une petite dynamique économique et sauver le club. Donc forcément on savait qu'il y aurait une belle ambiance et en plus c'est Saint-Etienne pour retrouver le football professionnel. Quelle plus belle affiche on pouvait effectivement rêver, et les places se sont arrachées. Alors je sais pas si vous avez suivi cette petite histoire de tribune suspendue, la tribune avec le COP notamment. Elle devait être dans l'intégralité, cette tribune en face de moi à gauche là, derrière le but des Sochaliens pour l'instant à l'échauffement. Elle devait être complètement fermée, suspendue à cause des fumigènes utilisés en fin de saison dernière pour célébrer la montée. Et finalement au dernier moment hier après-midi, le CNOSF a tranché, il a dit non, vous pouvez rouvrir. Uniquement on voit d'ailleurs les petits rubans rouges et blancs là qui délimitent le petit espace derrière le but où est situé le COP habituellement, mais le reste de la tribune a pu rouvrir. Donc hier après-midi, ça a été vite dépêchons-nous pour prendre une des 3600 places qui ont été remises en vente, et c'est parti en l'espace de quelques minutes parce qu'il y avait évidemment une forte attente. Et depuis tout à l'heure, eh bien on voit une très belle ambiance, des gens devant qui sont là, qui profitent des animations, qui profitent des food trucks et autres possibilités de gastronomie ici à Bonal. Il y a également 800 supporters de Saint-Etienne qui ont fait le déplacement, donc ça commence déjà à se répondre en tribune à coup de chant pour voir qui va gagner cette bataille des tribunes. Franchement, pour retrouver la Ligue 2, on pouvait vraiment pas rêver mieux, et c'est une formulation qu'on entend régulièrement, mais là c'est vraiment le cas.
Il y a un engouement énorme, tu l'as dit, les supporters sont au rendez-vous. Sochaux qui a fait donc un titre de vice-champion de national à l'issue de la saison passée et qui veut rester dans la continuité, pas de changement d'entraîneur. Vincent Ognon, qui avait réalisé des belles choses, continue. Et au niveau de l'équipe également, on veut garder les pieds sur terre. Hein.
Oui, c'est ça. Bah, surtout que le projet était de retrouver le club à horizon 2028. Donc voilà, on monte en 2026. Bon, bah très bien. Il y a un tout petit peu d'avance. Donc il n'y a pas d'urgence à performer. Surtout, il faut stabiliser ce club de Sochaux maintenant au niveau professionnel. Donc en Ligue 2 dans un premier temps. On ne clame pas des ambitions tout de suite. On est sur dynamique, on va monter. Non, non. Le message est clair. C'est le maintien qu'il faut assurer pour pouvoir continuer à construire. Ce budget, il a été bâti autour de 15 millions d'euros à peu près. Donc plus de deux fois moins que Saint-Etienne, par exemple. Mais l'argent n'ira pas uniquement dans la masse salariale. Il n'y a eu aucun recrutement onéreux pour l'instant du côté de Sochaux. C'est que des joueurs en fin de contrat ou des prêts. Voilà, il faut être malin parce que cet argent doit aller dans les infrastructures, rénovation du centre d'entraînement, des tribunes aussi, des vestiaires du stade Bonal, etc. Parce qu'il ne faut pas brûler les étapes si on veut maintenant retrouver Sochaux de manière régulière, installée dans le football professionnel, d'abord en Ligue 2 et puis pourquoi pas en Ligue 1 un jour. Et ben, il faut d'abord remettre effectivement toutes ces petites pierres à cet édifice avant de penser à tout ça. Donc on a des équipes, ce qui est intéressant, c'est d'avoir gardé en tout cas des joueurs qui ont performé aussi l'année dernière. Je pense à Benjamin Gomel, l'ailier gauche, qui était vraiment très performant, un super beau joueur. Pour l'instant il est toujours là. Kopi Djoko en attaque aussi, Julien Masson au milieu. Voilà, donc on a gardé quand même une ossature, même si Boutou Taoué est parti du côté du Steaua Bucarest, mais voilà, on a réussi à garder quand même une ossature forte de cette équipe qui a réussi à monter. Donc avec la dynamique, avec ce public, bah pourquoi pas faire malgré tout une plutôt belle saison et puis aller chercher un maintien. Bah, s'il peut être acquis, comme on le dit dans le jargon, le plus vite possible, et bah, ce sera le mieux.
David, on a touché le fond à Sochaux. Ils se sont reconstruits, ils viennent de passer 3 ans en national. Ils ont bien travaillé sur le terrain avec cette montée. Ils ne veulent pas s'emballer. Ils veulent redevenir un club sain financièrement. Sochaux a pu voir le retour également de Peugeot, qui est évidemment un sponsor historique dans le club. On a l'impression que tout est en train de se réemboîter comme il fallait.
Là, c'est vraiment un exemple en fait, de reconstruction. C'est vrai qu'ils sont passés très très près de de la mort à une décision administrative près de la mort, ou en tout cas de la disparition complète au niveau professionnel. Moi, j'aime beaucoup ce qu'ils font depuis depuis quelques saisons. Ça a déjà été mentionné. Ils ont gardé un effectif très stable. Ils ont très bien ajouté. Moi, j'aime beaucoup Victor Lobry qu'ils ont pris. Je trouve que c'est un joueur en fait qui a connu quelques longues blessures récemment, mais à Pau, à Amiens, c'est un joueur très élégant, expérimenté. Et d'un point de vue actionnarial, c'est hyper intéressant ce qui s'est passé. Il y a Sociochaux, donc une association de sociaux qui a contribué à sauver le club. Il y a énormément d'entrepreneurs il y a des entrepreneurs qui sont mobilisés. Retour de Sochaux. Donc c'est un club qui a traversé un peu tous les vices.
De Peugeot.
Mais c'est un club qui a traversé tous les vices du football actuel avec la multipropriété, avec un actionnariat étranger douteux, et finalement qui revient avec une structure actionnariale un peu plus traditionnelle, et comme par hasard ça fonctionne.
Oui, on voit des très belles images.
Oui. On peut ajouter que tu parles de Sociochaux, effectivement. Donc c'est Sociaux, ça, à la française, qui ont investi, je vous le disais tout à l'heure, qui ont pu injecter et récolter 500 000 euros. En France, c'est unique puisque cette association de supporters, c'est la seule à pouvoir siéger au comité d'administration du club. Donc c'est quand même assez unique, et c'est dans leur sillage qu'une quarantaine d'entreprises s'étaient dit, OK, il se passe quelque chose. OK, il y a de l'argent, il y a un déclic. OK, on y va. Donc c'est vrai que les supporters, forcément, ils ont de l'importance. Ils aiment leur club et le club est obligé. Obligé aujourd'hui de le rendre.
C'est quoi le budget de Sochaux, tu le connais?
Dans les 15 millions à peu près.
Oui, quand même.
Beau budget de Ligue 2.
Ouais. Oui, c'est pas mal quand même, hein. C'est pas mal.
Mais après, ils ont un centre à faire fonctionner, donc ils ont des dépenses. Je crois que c'est selon cours qu'ils veulent rénover. Non, ils ont quand même des dépenses, des coûts fixes assez importants.
Oui, c'est ça. Il y a le centre de formation qui est traditionnellement l'un des meilleurs de France et même d'Europe à une époque. Et effectivement, comme je l'évoquais plus tôt, il y a aussi pas mal d'investissements à prévoir pour rénover selon cours, pour rénover aussi ce stade Bonal, hein, parce que les vestiaires, etc., il y a pas mal de choses à revoir. Et c'est pour ça que, au niveau de l'effectif, on essaie de faire attention, de ne pas faire n'importe quoi, d'y aller petit à petit, parce que, ouais, vous l'avez dit, il y a beaucoup de frais annexes pour un club comme Sochaux.
Il y a Mathieu Pévernès aussi, qui est un vestige de la Ligue 1, qui retrouve le niveau professionnel avec Sochaux, c'est bon.
Ah oui, avec le brassard de capitaine, évidemment, encore une fois ce soir. C'est vrai qu'il était revenu dans son club pour, entre guillemets, filer un coup de main. Il est sur la fin, hein, il est en fin de carrière, Mathieu Pévernès, il en a vu d'autres. Mais c'est une belle aventure aussi, c'est une belle histoire aussi pour lui, finalement, de permettre à son club de cœur de retrouver le football professionnel. Ça fait partie de ces belles histoires quand il y a des clubs comme ça qui ressurgissent d'un peu nulle part.
Deux belles histoires, effectivement, des supporters heureux, un club qui est en train de retrouver de sa superbe. On va parler maintenant de l'adversaire, les Verts Saint-Etienne, qui espéraient retrouver la Ligue 1 à l'issue de l'exercice précédent. Ça n'a pas été le cas, et donc on a encore changé lors de l'intersaison. Parle-nous de ce nouvel entraîneur recruté au Portugal, où il était entraîneur à Estoril. Là aussi, il y a de la jeunesse, hein, sur les bancs cette saison. Un jeune de 39 ans, Yann Catro, qui prend donc la suite de Philippe Montagnier.
Ouais, c'est vrai que c'est la petite surprise un petit peu, hein, puisque alors je sais pas si on s'attendait ou pas, mais il y a peut-être un coach un peu plus expérimenté, qui connaisse un peu plus ce championnat, peut-être pour aller chercher les petits points qui ont manqué en fin de saison dernière pour se passer tout simplement des barrages, hein, pour monter directement avec une des deux premières places. Et puis petite surprise avec ce jeune entraîneur effectivement écossais d'origine, qui a eu surtout une carrière d'adjoint, hein, notamment de Nuno Espirito Santo, en début de carrière du côté de Rio Ave. Il l'a retrouvé un petit peu plus tard en Angleterre, à Tottenham notamment. Il a été adjoint de Steve McLaren et de Raphaël Benitez du côté de Newcastle. Donc on voit, c'est quand même un pedigree qui est pas mal. Il a aussi bossé au niveau d'une académie au Portugal. Donc il connaît plein de football, en fait. C'est ça qui est assez intéressant. Et il a ce poste de numéro 1 effectivement sur ses deux dernières saisons à Estoril, où il a fini 8e puis 10e. C'est plutôt honorable, hein, avec un club de cette envergure. Il a des idées, il est ouvert à beaucoup de choses, hein. On l'a dit, il est écossais d'origine. Il a traîné au Portugal, il a traîné en Angleterre avec des coachs espagnols, anglais, espagnol. Oui, j'ai déjà dit espagnol, anglais, espagnol. Oui, voilà, deux fois espagnol, mais c'est pas grave. Mais en tout cas, voilà, c'était juste pour dire que il a une fibre sans doute tactique très très diversifiée. Il a écouté beaucoup de choses, et puis il s'est dit un jour, et pourquoi je prendrai pas mon envol, et pourquoi je prendrai pas une équipe. Il a eu l'opportunité une première fois à Arps dans son pays. Ça a duré quelques mois avant de repartir comme adjoint, et puis effectivement ensuite à Estoril, où là, ça l'a confirmé dans ses choix et dans ce qu'il aime. Et ça reste un adjoint qui a côtoyer le très très haut niveau, que ce soit footballistiquement, voilà, sur le terrain et sur les bancs également. Et forcément, bah, il a appris, j'imagine, énormément de choses. Et c'est l'occasion pour lui, là, dans un championnat un peu plus relevé, peut-être, et surtout dans un club très exposé, parce qu'on a beau être en Ligue 2, Saint-Etienne, ça va être très très exposé, beaucoup plus qu'Estoril, à mon avis, au Portugal, pour pouvoir passer un cap lui aussi dans sa carrière. Il va être très attendu. Et j'imagine qu'il doit aussi avoir un petit peu de pression pour lui ce soir, pour un premier match, surtout après une période de matchs amicaux plutôt intéressante, où ils ont fini avec un 4-0 contre Lausanne Sport et un 4-3 face à Venise, qui vient de monter en Serie A. Donc de belles promesses sur les matchs amicaux, mais maintenant, c'est maintenant que les choses sérieuses commencent. Et on a hâte de voir effectivement comment il va organiser son équipe, comment il va s'adapter aussi au fil des semaines. Et ça, c'est souvent ça qu'on voit la marque des grands entraîneurs.
Kevin, est-ce que tu comprends le projet stéphanois? C'est-à-dire qu'en janvier 2025, on a un homme qu'on connaît peu, Horneland, qui débarque. Finalement, il n'a pas réussi sa mission. Alors on reprend une valeur, on va dire, sûre, un vieux de la vieille, Philippe Montagnier, qui finalement ne réussit pas l'objectif qu'on lui propose. Et donc là, on repart sur une nouveauté avec un profil complètement différent. On a du mal à comprendre en fait quelle est vraiment la ligne directrice.
Bah écoute, c'est vrai que c'est difficile avec la AS Saint-Etienne, mais c'est le problème des très grands clubs. On le voit avec Marseille en Ligue 1, notamment la AS Saint-Etienne aujourd'hui, c'est l'Olympique de Marseille de la Ligue 1. C'est-à-dire que c'est le club où il y a le plus de supporters, où il y a le plus de médias locaux notamment qui suivent au quotidien. Et donc quand ça va pas, bah il y a beaucoup de critiques et il y a beaucoup de remous. Et donc je pense que ça doit être très très difficile pour la direction de maintenir le cap sans essayer de changer quelque chose, parce que tout le monde veut donner son avis, parce que aujourd'hui le football de haut niveau, tout le monde a quelque chose à dire dans les différentes strates du club, surtout quand tu as des investisseurs étrangers qui ont envie de remonter vite, qui sont ambitieux, qui ont envie de faire l'argent. Faut pas oublier que les investisseurs aujourd'hui, avant on avait des investisseurs qui étaient là.
C'est plus un mécène, Tenenbaum, là, Saint-Etienne. C'est pas un fonds d'investissement. Il a un profil mécénal.
Mais il est là pour gagner quand même.
Oui, mais pas forcément de l'argent. Il est là pour gagner.
Oui, moi je pense quand même que ça fait partie des gens qui sont quand même dans le football français parce qu'ils ont vu une opportunité, pourquoi pas, de rentrer dans quelque chose et de ne pas forcément perdre de l'argent à terme.
Je serais pas aussi catégorique que toi.
Je suis pas catégorique, en tout cas c'est ce que j'ai l'impression aujourd'hui dans le football de haut niveau. Mais voilà, tu me demandes pourquoi il y a de l'instabilité. Il y a de l'instabilité parce qu'il y a beaucoup de passion.
Mais dans le choix des coachs aussi, parce qu'on passe de l'originalité au classique, on revient à l'originalité.
On a tenté avec Montagnier, ça a bien failli faire. Hein, Montagnier qui a redressé la barre avec un profil plus sobre, un profil plus franco-français, un profil quand même qui avait montré notamment beaucoup de réussite avec Toulouse et puis tout au long de sa carrière. Maintenant, il repart sur quelque chose de peut-être de plus moderne, de plus jeune. J'avoue que c'est un entraîneur que je connais pas. Par contre, je connais un petit peu Estoril, qui est un club qui est remonté de deuxième division il y a quelques années et qui lance souvent des joueurs. On en a vu quelques-uns arriver à Lille, notamment Thiago Santos, par exemple. Donc, on sait que ça travaille bien. Il y a des très bons joueurs. Il y a sûrement donc des bons entraîneurs. On fait des bons choix dans ce petit club des plus belles régions du Portugal, d'ailleurs, que je conseille à ceux qui connaissent pas. Mais d'avoir un entraîneur comme ça qui arrive à Saint-Etienne, je trouve que c'est très intéressant, en tout cas.
En tout cas, ça sera l'une des attractions également de ce championnat avec cette nouveauté, Yann Catro, jeune entraîneur de 39 ans qui va découvrir la France, le championnat français.
Il y a un joueur à suivre, c'est quand même Jacob Brum.
Il vient de Go Ahead Eagles.
Oui, il vient de Go Ahead Eagles, mais surtout j'ai vu quelques images là sur Bein Sport avant le match, de quelques buts qu'il a mis en préparation. Le profil est très intéressant, numéro 10, 22 ans, qui a l'air d'être un joueur très technique et un joueur agréable à voir jouer.
Et l'an dernier, ils ont vraiment été perturbés par les blessures, parce que la plupart, enfin, ils ont énormément de blessures, notamment Mahmoud Jaber, le milieu israélien, et Echi Colomba, qui est un des plus gros espoirs portugais au poste de défenseur central, qui avait été parmi les meilleurs joueurs du dernier Euro Espoir. Mais moi, Castro, déjà, j'aime beaucoup, parce que c'est un type qui a monté une académie de football en Écosse à peine majeure. C'est quelqu'un qui a écrit un bouquin pour affirmer sa théorie. C'est quelqu'un qui a voyagé, quelqu'un d'hyper curieux. Donc moi, forcément, ça me parle. Mais le fait est que Saint-Etienne sort d'une saison très en deçà des attentes, très en deçà des moyens mis à disposition. Et là, il y a qu'une seule option, c'est la montée. Et j'ai même envie de dire la montée avec style pour justement être en accord avec les investissements de l'actionnaire. Mais c'est un projet, moi, data, mise en valeur de talent qui m'intéresse, surtout à ce niveau.
Un nouvel entraîneur, de nouvelles idées. Il y a notamment Julien Le Cardinal, le Stéphanois, qui a été interrogé sur le nouveau staff. On l'écoute.
On est passé à autre chose. Voilà, aussi, il y a l'arrivée du nouveau coach, du nouveau staff aussi qu'on ramenait aussi à cette fraîcheur. Ils ont pas connu l'année dernière. Et je pense qu'on a eu le temps de cogiter pendant les vacances. Et puis, après, arriver ici au 1er juillet, il fallait vite passer à autre chose et pas s'apitoyer sur la saison dernière. C'est passé et on va pas repenser au passé. Maintenant, c'est le présent et c'est le plus important.
Un choc donc pour cette première journée de Ligue 2 entre Sochaux et Saint-Etienne. On est avec toi Sébastien Ruffet à Bonal. Est-ce que tu peux nous dire les choix des deux entraîneurs? Et du côté de Saint-Etienne aussi, il y a des gros noms qui ne sont pas sur la pelouse ce soir.
Ah, est-ce que tu veux qu'on commence par les absents? Est-ce que David Tajvili, Stassin sur le banc, effectivement, côté Saint-Etienne. Du coup, allez, on va commencer avec les Verts. Larsonneur dans le but, João Ferreira à droite, Kevin Pedro à gauche, Le Cardinal associé à Nahir dans l'axe, la charnière au milieu avec Aaron Xongvai, l'une des recrues associée à Maxime Pernauer, Boakier à droite a priori, Jacob Brum à gauche et Irvine Cardona associé à Thiermo Ballo, lui aussi l'une des recrues. Donc on voit, c'est une très très belle équipe sur le papier et il y a de la ressource également sur le banc, on l'a compris. Côté Sochaux, c'est ce qui était annoncé également, Jeannin dans les buts avec Gomis à gauche et Youssouf à droite, Ngata associé à Mathieu Pébernès, le capitaine dans l'axe, Victor Loubry associé à Julien Masson, c'est plutôt pas mal aussi au niveau de la récupération avec Sami Bagdadi qui sera devant au numéro 10, Benjamin Gomel, ça c'est mon petit joueur frisson, c'est mon petit chouchou du côté de Sochaux, je l'aime beaucoup, l'ailier gauche, jetez un œil sur lui. Nomel sera à droite, attention il y a Gomel et Nomel, il ne faudra pas se tromper, et Capit Joko évidemment, le numéro 9 qui est toujours là du côté de Bonal.
Merci beaucoup, on revient te voir dans quelques minutes, on va rester dans le nord, on va repartir à l'est, qu'on retrouvait à Saint-Symphorien Patrick Muller, Metz, Guingamp. Salut Patrick.
Salut Karine, salut tout le monde, bienvenue à Saint-Symphorien.
Patrick, on retrouve l'équipe dite l'ascenseur, parce qu'évidemment c'est une spécialité du côté des Messins, avec du changement. On rappelle qu'au niveau des entraîneurs, sur les 18 équipes engagées, il y a eu 9 changements d'entraîneurs, et c'est le cas évidemment de Metz qui a vécu une saison absolument terrible en Ligue 1 et qui veut se relancer avec un nouvel entraîneur, l'ancien sélectionneur du Luxembourg, Luc Holt.
Exactement, saison cataclysmique, hein, disons-le très clairement. L'année dernière, avec simplement 17 points pris, 3 victoires, 76 buts encaissés, ça a été un enfer. Et évidemment, il fallait relancer un cycle, une dynamique. Et le choix s'est porté sur, en effet, Luc Holtz. Il a passé 15 ans à la tête de la sélection luxembourgeoise. Il l'a un petit peu sorti de l'anonymat pour réussir à faire des résultats, aller approcher des sélections un petit peu plus huppées. C'est un pays qui progresse au niveau du football. Il y a certainement contribué. Et officier la saison dernière en 3ème division allemande, et donc il a eu la confiance des dirigeants messins pour tenter une nouvelle fois de réussir ce coup de l'ascenseur. C'est la volonté du président, elle a été annoncée dès la fin de saison passée en Ligue 1, Bernard Serin l'a dit, on veut remonter immédiatement, ce serait potentiellement la 3ème fois qu'ils y parviendraient. Alors évidemment il faut mettre énormément de conditionnels dans ce propos, j'entends par là que sur les 4 dernières saisons ils ont à chaque fois fait Ligue 1, Ligue 2, Ligue 1, Ligue 2, et donc ils se retrouvent à nouveau dans cette position d'essayer de remonter parmi l'élite.
Les Messins en tout cas qui connaissent la recette pour remonter dans l'élite, mais il va falloir apprendre à vivre sans leur ancien capitaine Gauthier Haigne qui est parti à Nice.
Il a signé cette semaine Gauthier Haigne, 8 buts la saison dernière, et il est donc parti. Alors on ne connaît pas exactement le montant, il oscille entre 2 et 3 millions d'euros. À ce qui passe un petit peu mal ici à Metz, c'est que ça devait être le meneur de jeu, le GPS un petit peu offensif de cette équipe de Metz. Mais il restait sur une saison extrêmement douloureuse, même si ses stats étaient honorables, hein, 8 buts inscrits, 7 passes décisives délivrées. Mais il voulait rester en Ligue 1, il avait fait part de ses velléités de départ. Il a mal vécu sur un plan personnel la saison dernière, il a perdu le brassard, il a été un petit peu déclassé, un petit peu lâché, on va le dire comme ça, par sa direction. Il y a eu un petit peu d'une relation un petit peu qui s'est refroidie avec les supporters. Il est donc parti en Ligue 1 à 3 jours du premier match de la saison, en sachant qu'il avait fait la préparation en tant que titulaire. Le timing est donc un petit peu compliqué pour Luc Holtz, qui le dit lui-même, hein, il n'a pas la solution pour le remplacer poste pour poste. L'idée, c'est un remplacement qui va passer par un système, ou un remplacement plus collectif, et par peut-être une nouvelle animation dans le secteur offensif côté Messin.
Et un petit mot sur l'en avant Guingamp, les Guingampais qui ont terminé la saison très difficilement avec 7 matchs sans victoire, mais qui continuent avec Sylvain Ripoll.
Un petit peu en roue libre, hein, dès le mois de janvier, février. Les Bretons, 4 défaites consécutives pour clore cette saison. Ça a été difficile, 11e, alors que la saison précédente, ils avaient bataillé dans les playoffs d'accession. C'est un club qui s'est un petit peu installé quelque part en Ligue 2, et qui veut rebondir, et qui devra faire sans Louis Mafuta, hein, c'était le meilleur buteur guingampais la saison dernière avec 15 buts inscrits. Il y a eu quelques départs marquants et quelques arrivées. Il faut impulser une nouvelle dynamique avec Sylvain Ripoll, qui est installé pour la 3e année consécutive sur le banc des entraîneurs. Mais c'est vrai que c'est un club qui a un petit peu reculé dans la hiérarchie, qui était en Ligue 1, qui a eu des expériences notamment en Coupe Nationale, Coupe de France et Coupe de la Ligue, et qui veut essayer d'impulser quelque chose dans cette Ligue 2. On a ne cesse de le répéter, qui va être très relevé, hein, avec 14 clubs qui ont déjà évolué en Ligue 1 sur les 18 partants. Ça va être difficile pour Guingamp, mais c'est une équipe solide, et ça va être une belle opposition pour ce FC Metz nouvelle version, pour s'étalonner et se jauger, en sachant que on l'a évoqué, hein, il y a quand même pas mal de changements dans cette équipe.
Merci beaucoup Patrick, on revient te voir dans quelques minutes pour le coup d'envoi à Saint-Symphorien. On va prendre tout de suite la direction de Gabriel Montpied, Clermont-Reims, avec Damien Tardieu. Salut Damien.
Salut Karine, bienvenue à tout le monde au pied des volcans ici à Clermont.
Ah magnifique, on est en Auvergne avec toi.
Comment ça se fait que tu es aussi enthousiaste à l'idée d'aller à Clermont?
Parce que c'est génial, j'adore Clermont.
Reçu, ah moi ouais. J'ai osé dire
Clermont, on est toujours très bien reçu à Clermont. J'ai passé
à Clermont en fait
plein de fois. J'ai fait toute la saison où Clermont jouait la montée, justement avec Damien Périnel capitaine,
même Damien Tardieu n'est pas d'accord avec moi.
Et avec Michel Derzakarian qui était l'entraîneur, et j'ai des très bons souvenirs. Mais justement, ça c'est le passé mon cher Damien. Dis-nous tout, parce que Clermont a tout changé cet été. On a vendu le club, on a un nouvel entraîneur et on a un renouvellement d'effectifs.
Effectivement, nouveau propriétaire Stéphane Tessier, ex-directeur général de l'OM de Saint-Etienne, avec son frère Jean-Jacques, avec la société ABL Finance, qui a donc repris le club à Ahmed Schaeffer, le président suisse de Clermont, qui, on le rappelle, avait quand même amené Clermont en Ligue 1 pendant 3 saisons. Depuis, c'est compliqué pour le club auvergnat, qui est revenu à la Ligue 2, 3e saison consécutive en Ligue 2. Les deux dernières, les Auvergnats ont lutté pour leur maintien, avec même un barrage il y a 2 ans. L'année dernière, les Clermontois se sont sauvés à l'avant-dernière journée. Bref, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Un nouvel entraîneur, David Guillon, est-ce qu'il fera la passerelle avec l'adversaire du soir, le Stade de Reims, évidemment, qu'il avait fait monter en Ligue 1. Et puis clairement, avec beaucoup de joueurs qui sont partis, les derniers vestiges entre guillemets de l'époque Ligue 1 ne sont plus là. Johan Gastien a arrêté sa carrière, on a eu également le départ de Maximiliano Coffrier. Bref, Clermont repart quasiment d'une feuille blanche, avec une tribune qui est en face de moi, qui est en train d'être finie, d'être construite, et qu'on espère enfin voir ouverte pour aller dans le courant de la saison. On prend pas trop de risques, peut-être début d'année civile 2027.
Un petit mot également sur les Rémois. Il y a eu un échec, hein, la saison passée, ils ont fini à 6e, et un changement d'entraîneur également pour le Stade de Reims.
Oui, et on a changé avec Karel Gerhardt qui est parti une seule saison et puis s'en va, même pas de qualification au barrage. C'est un échec évidemment pour Reims qui descendait de Ligue 1. Du coup, on a fait confiance à un garçon qui connaît la Ligue 2 comme sa poche, Nicolas Uzaï, 196 matchs dirigés en Ligue 2 à Châteauroux, à Nîmes et à Pau notamment, avec un effectif également qui a été pas mal bouleversé. Il y a eu des belles ventes, hein, à Reims. On pense à Jaouen, on pense à Zabi par exemple, à Kipré qui sont plus là. Il y aura 4 recrues alignées, 5 si l'on ajoute Samuel Coteau qui était prêté à Reims mais qui a signé un transfert définitif cet été. Bref, là aussi il y a pas mal d'incertitudes, mais une équipe rémoise qui, au vu de son budget, au vu de son effectif également, il y a encore des joueurs qui sont dans la salle d'attente. On pense à Nakamura notamment, qui n'est toujours pas parti. Reims se doit de jouer les premiers rôles et doit faire bien mieux que la saison dernière, qui était une saison décevante.